en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames les Académiciennes, Messieurs les Académiciens, c'est à la fois un plaisir, un honneur que vous me faites en me laissant vous présenter quelques idées sur les mathématiques en sciences sociales. J'espère répondre à l'honneur, je n'en suis pas sûr, je ne suis pas sûr d'en être capable. En tout cas, le plaisir est là, permettez-moi de vous le dire. Alors, je n'ai pas été tout à fait fidèle à ma mission parce que Monsieur le Président Bourgeois m'avait confié l'étude du rôle des mathématiques en sciences humaines. Et j'ai donc trahi légèrement son intitulé. Pourquoi ? Parce que je veux éviter une querelle sur les délimitations qui n'est pas de premier plan aujourd'hui, et parce que l'appellation de sciences sociales s'applique par convention à l'économie et qu'il s'agira surtout de l'économie aujourd'hui. Mais ce qui en sera dit se voudrait généralisable. À nouveau, aux autres disciplines catégorisées comme sciences sociales. Et je fais exception pour l'histoire qui, selon moi, demanderait un traitement épistémologique tout à fait particulier. Alors, une première difficulté du sujet est qu'il est difficile de parler du rôle des mathématiques sans évoquer leur présence historique et concrète dans ce qu'on appelle sciences sociales. Autrement dit, sans évoquer le développement historique de leur mathématisation. Et il se trouve que dès le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, apparaissent des signes de mathématisation très explicites dans ce qui deviendra la science économique ou la science politique. D'où le risque, en étudiant un processus de mathématisation apparemment particulier, d'embrasser la presque intégralité de l'histoire des sciences sociales. Mais ce n'est pas le seul risque, parce que le point de vue historique ne suffit pas. Comment en effet traiter de mathématisation sans faire d'abord l'épistémologie de ce processus ? Et voilà le genre de question. L'usage réfléchi de données quantitatives qui se pratiquent déjà au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle relève-t-il, je me permettrai donc. Merci, Monsieur le Secrétaire Perpétuel. L'usage réfléchi des données relèverait-il par lui-même des mathématiques ? Sinon, quels critères ? Et de quelles mathématiques parle-t-on d'ailleurs ? Du calcul des probabilités qui était recommandé par certains au XVIIIe siècle, de l'analyse pour laquelle le XIXe siècle a une préférence, ou de l'algèbre et de ce qu'on appelle au XXe siècle les mathématiques qualitatives. Donc, nous risquons d'être écrasés par les préalables avant de parler du sujet même du rôle des mathématiques. Alors, j'ai proposé le court-circuit suivant, délimiter le concept de la mathématisation en même temps que jeter quelques informations sur le processus historique, et cela sera fait sous la forme d'exemples. Le tableau économique de Quesnay, le paradoxe de Condorcet, la réponse de Bernoulli et paradoxe de Saint-Pétersbourg. Vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler du grand classique. Ayant ainsi réglé les préliminaires, on traitera enfin du rôle des mathématiques, et je crois en avoir le temps, si j'ai bien fait mon calcul. Le tableau économique de Quesnay, commençons par lui. Alors, c'est la première représentation d'une économie nationale vue comme un système d'échange entre des groupes d'agents. Les agents de Quesnay, vous le rappelez, ce sont les propriétaires fonciers, les fermiers et les artisans qui sont décorés de l'appellation un peu satisfaisante de classe stérile. Donc un système d'échange entre trois groupes d'agents est par ailleurs un système qui est soumis à une contrainte de viabilité globale et en l'occurrence, il faut que les dépenses engagées par chaque classe se retrouvent comme rentrées. Le tableau paraît en 1758, fait l'objet des différentes rééditions et il existe une version simplifiée qui suffira ici. Alors, je vous demande de regarder le haut de la page seulement pour l'instant. C'est ce que Quesnay appelle un zigzag sous une forme simplifiée parce qu'il en a produit des formes beaucoup plus complexes. Et au moins, cette forme, on arrive à l'analyser. Alors, je ne vais pas faire l'analyse entière, mais je vous donne l'idée. Il faut d'abord repérer les trois classes, les fermiers à gauche, les propriétaires au centre et les artisans à droite, qui correspondent à des colonnes. Les flèches vont correspondre à des transferts. Et on peut voir un processus qui s'auto-reproduit et qui démarrerait comment ? Eh bien, les fermiers en haut à gauche disposent d'un surplus par rapport aux produits de l'an dernier de 2 milliards. Ils vont en faire profiter les propriétaires sous forme de rente. Les propriétaires enclenchent la machine économique par des dépenses. Il y a une flèche qui part des propriétaires vers la droite, ce qui correspond à 1 milliard d'achats chez les artisans et 1 milliard d'achats chez les fermiers. Si on s'intéresse maintenant aux artisans, on voit que les artisans vont toucher aussi 1 milliard des fermiers. C'est la flèche qui part du haut à gauche et qui arrive vers le bas à droite. On a déjà totalisé les comptes des artisans qui sont de 2 milliards, à la fois comme rentrée et comme dépense. Pardon, je ne vous ai pas décrit les dépenses des artisans, je vous ai décrit leur rentrée seulement. Les dépenses des artisans qui correspondent à deux flèches partant de la colonne de droite, ces deux flèches ou ces deux lignes correspondent à 2 milliards d'achats des artisans aux fermiers. Ce n'est pas sur le tableau, mais Quesnay décompose cela, 1 milliard de matières premières et 1 milliard de subsistance. Donc voilà, 2 milliards égale 2 milliards, j'ai achevé le bilan des artisans. Je pourrais continuer avec les fermiers et avec les propriétaires fonciers, mais je ne le ferai pas. Vous voyez que derrière une formulation obscure, on devine quelque chose d'important. Mirabeau et Quesnay n'étaient pas modestes. Voilà ce qu'ils nous disent de cette magnifique trouvaille. Le tableau économique est la première règle d'arithmétique que l'on ait inventée pour réduire au calcul exact, etc. Je vous laisse lire. J'ai souligné en gras deux phrases parce qu'elles contiennent par avance des termes modernes de discipline des sciences sociales d'aujourd'hui. Il est question de la science économique. C'est remarquable. C'est l'une des premières occurrences historiques de l'expression. Et il est aussi question de la politique économique qui, comme vous le savez, est un des grands sujets de la science économique. Donc, vous admirerez la prétention. Était-elle justifiée ? Les successeurs se diviseront. Marx rendra hommage au génie de Quesnay et il y a de fait une filiation entre le tableau et ce qu'il appelle les schémas de la reproduction capitaliste simple ou élargie. Et Léontief, en 1951, au moment où il construit pour la première fois une matrice input-output de l'économie américaine, la présente comme une tentative pour construire un tableau économique des États-Unis. C'est un coup de chapeau notable. Mais d'un autre côté, d'autres voient dans le tableau une mystification. Et l'on voit là la vieille controverse sur la mathématisation en sciences sociales avec une attaque en règle de deux économistes un peu oubliés aujourd'hui, mais je signale que professeur Charles Rist était l'un des vôtres, en fait, au début du XXe siècle. Alors, ces commentaires opposés, en fait, pêchent, à mon sens, conceptuellement, parce que implicitement, il rattache le tableau à l'économie mathématique, ou explicitement, c'est une erreur de délimitation. Kainé fait certainement accomplir un pas considérable à ce qu'on appelle l'arithmétique politique, c'est le courant dans lequel il s'inscrit. Le fondateur en est William Petty, dans un ouvrage de 1690, au titre éponyme, et d'autres Britanniques. Et chez eux, l'arithmétique politique consistait simplement à produire des données empiriques sur les populations, les productions, le commerce. Les données numériques de Kainé sont différentes. Elles sont, dans le tableau que je vous ai montré, entièrement illustratives. Donc elles sont conçues en fonction d'une thèse, en l'occurrence, c'est la thèse fameuse de la productivité exclusive de l'agriculture. Donc vous voyez le saut théorique, ne soyons pas chauvins, on est passé des Britanniques aux Français, il y a un surcroît de théorie. Un mot au passage de William Petty, qui est un personnage assez étonnant, puisque c'était un ami de Cromwell, en fait, et il a été envoyé en Irlande pour arpenter et mesurer les biens fonciers des seigneurs catholiques que Cromwell envisageait de spolier pour récompenser ses propres commanditaires. Voilà. Et Petty a fait ce travail très pratique qui l'a amené à collecter à sa vie durant des données sur d'autres sujets. Il a tenté de se faire élire au Parlement britannique, il n'a pas réussi. C'est le cas très bien représenté, en fait, de l'expert économique qui ne réussit pas à entrer sur la scène politique. Donc, il s'est consacré à ses chères études. Donc, vous voyez le pas que franchit Kainé, mais voilà, les mathématiques ne commencent pas à l'usage des nombres et des quatre opérations, sans quoi tous les comptables seraient des mathématiciens. Et le tableau, si remarquable soit-il, n'est qu'un exercice de comptabilité nationale. Et voyons le travail qu'effectue un certain Phillips, économiste des années 50, auteur d'une courbe bien connue, le travail qu'il effectue à partir du tableau. Eh bien, si on le regarde de près, on comprend où commence la mathématisation avec le remplacement des nombres par des variables, c'est-à-dire avec l'algèbre. Et le tableau devient un cas particulier d'une classe d'objets mathématiques généraux, objets que l'on peut traiter pour eux-mêmes indépendamment de la visée économique initiale. Et c'est la seconde partie de la page, vous voyez que l'algèbre entre en scène, les nombres ont disparu. Et pour faire le lien quand même entre l'algèbre et le tableau, voilà une matrice numérique. Elle nous fait exactement le lien. Ce sont les nombres de Kainé, mais ils sont organisés différemment sur le plan spatial et théorique, en fait, et cet objet où vous retrouvez les nombres que j'ai commencé à décrire, avec les ventes qui sont totalisées en bas et les rentrées qui sont totalisées en colonne, en hauteur, eh bien, ce tableau est un cas particulier d'un objet très savant qui s'appelle une matrice carrée à coefficients non négatifs et qui est soumise à certaines propriétés, en l'occurrence l'égalité des sommes de lignes avec les sommes de colonnes de même rang. Voilà. Alors, là, je voudrais me risquer un petit peu de philosophie des mathématiques à coup de butoir, pardonnez-moi d'aller aussi vite. J'aime distinguer, ce n'est pas entièrement commun, ce n'est pas non plus révolutionnaire, j'aime à distinguer entre symbolisation, formalisation et mathématisation. Donc la symbolisation, c'est un procédé consistant à remplacer les signes d'un langage par les signes d'un autre, le remplacement obéissant à certaines contraintes, uniformité et de cohérence. Et le propre de la symbolisation est que des significations peuvent rester attachées aux nouveaux signes. Ce sont des significations qui sont prises dans celles qui étaient attachées aux signes anciens, mais elles sont en quelque sorte retriées et réarrangées, ce qui est la valeur ajoutée de la symbolisation. Ce que j'appelle formalisation, c'est l'acte qui consiste à traiter les signes comme s'ils étaient des objets en eux-mêmes, c'est-à-dire en faisant abstraction de leur signification. La formalisation suppose normalement la symbolisation, il y a des exceptions, mais peu importe. Et quand je dis traiter les signes, je veux dire effectuer des opérations sur eux. Et je dirais qu'une formalisation ne commence que s'il y a cette phase active d'opération, sinon on en reste au jeu de la symbolisation. Quand y a-t-il mathématisation ? Eh bien, lorsque les opérations qui mettent en branle les signes sont des opérations recensées du corpus des mathématiques, tout simplement. Ce sont des opérations algébriques, des transformations combinatoires, la dérivation et l'intégration, etc. Et cette phase est alors réglementée donc, par des résultats généraux, au lieu d'être soumise à des décisions ad hoc. Mais il peut y avoir des décisions ad hoc quand on invente un formalisme, comme a fait Russell, par exemple, avec la logique formelle, eh bien, c'est lui qui prenait les décisions au lieu d'emprunter aux règles préexistantes ou de la mathématique constituée. Alors, où en sommes-nous dans le tableau économique ? Eh bien, la symbolisation se manifeste, quoique assez maladroitement, par l'utilisation de nombres déjà, c'est de la symbolisation, parce que de cette manière, on regroupe deux concepts que le bon sens distingue spontanément, les entrées et les sorties, les ventes et les recettes, le même nombre pouvant jouer les deux rôles. Et d'autre part, il y a un essai assez touchant, je vous l'ai présenté, de présentation synoptique, le zigzag. La formalisation est totalement absente, donc Kenney n'appartient certainement pas à la mathématisation, mais elle arrive lorsque Leontief construit les matrices input-output et que M. Phillips fait le lien. Donc voilà une manière donc d'illustrer la triade conceptuelle. Passons à un autre exemple. Il relève de l'analyse de la décision rationnelle. Elle s'est entièrement renouvelée au XVIIe et XVIIIe siècle avec l'invention du calcul des probabilités. En substance, le modèle archaïque aristotélicien, par exemple, de la délibération des moyens compte tenu des fins proposées, s'est montré inapte au traitement de l'incertitude, d'où l'appel à de nouveaux concepts. Alors, on le sait bien, les concepts de probabilité et d'espérance mathématique sont déjà présents chez Pascal dans ce qu'on appelle le problème des parties. Il s'agissait d'évaluer ce qui revient à chacun des joueurs du total des mises sur la table lorsqu'ils interrompent une partie avant la fin. Il faut calculer en quelque sorte le droit de chaque joueur à une proportion des mises. Et pour cela, Pascal se sert de l'espérance mathématique en calculant les probabilités par l'analyse combinatoire. Alors, Bernoulli ajoute la considération supplémentaire de ce que les économistes nommeront plus tard la fonction d'utilité, l'emolumentum, de sorte que chez lui, on a les trois concepts ensemble, la probabilité, la fonction d'utilité et l'espérance mathématique portant désormais sur la fonction d'utilité. Pourquoi en vient-il là ? Parce qu'il rencontre le paradoxe de Saint-Pétersbourg. C'est un jeu de pile ou face répété et il comporte les gains suivants. Au premier jet, 6 piles, le jeu s'arrête et vous touchez 2 ducats. 6 faces, on procède à un deuxième jet. Au deuxième jet, 6 piles, le jeu s'arrête et vous touchez 4 ducats. 6 F, face, on procède à un troisième jet, et ainsi de suite. Alors, vous devinez la loi de la séquence. Au énième jet, 6 piles, le jeu s'arrête et vous touchez 2 à la puissance n du cas. Et si f, on procède à un énième jet, on passe au énième jet. Alors, d'après le critère de l'espérance mathématique de gain, appliqué donc au du cas, le jeu vaut l'infini, de sorte que vous devriez être prêt à donner n'importe quelle somme pour y participer. Ce n'est pas le cas, c'est le paradoxe. Bien. Que fait Bernoulli ? Il répond en substance que les sommes d'argent ont une valeur subjective, un emolumentum, et que l'espérance mathématique ne doit pas se calculer sur des ducats, mais sur des emolumenta, c'est-à-dire sur les valeurs subjectives données à l'argent. Il prend la fonction logarithme et, miracle, elle lui garantit une espérance mathématique finie. Bon. Il a résolu, au moins jusqu'à un certain point, le paradoxe. Le choix de la fonction logarithme est motivé par le fait qu'un ducat supplémentaire n'a pas la même valeur subjective s'il s'ajoute à un premier ducat ou s'il s'ajoute, disons, à un premier ensemble d'un million de ducats. C'est la propriété d'utilité décroissante de la monnaie avant l'heure. Alors, que tirer de cela ? La conception ancienne n'était pas mathématisable. Avec Bernoulli et Pascal, déjà, les trois caractères qui nous importent sont réunis. Pour le premier caractère, la symbolisation, on a bien un symbolisme pour les chances et la valeur subjective. Pour les caractères de formalisation et mathématisation, ces symbolismes ont un développement autonome grâce à des théorèmes généraux. C'est le théorème du triangle arithmétique chez Pascal et chez Bernoulli, ce sont des résultats qui commençaient à avoir cours en analyse sur la convergence des séries. Eh bien, c'est le point de départ d'une grande théorie d'aujourd'hui, dont je m'occupe un petit peu avec beaucoup d'autres, c'est la théorie d'utilité espérée qui a donné naissance à la théorie de la décision et à la théorie des jeux. Je n'interprète pas plus, je vous présente mon troisième et dernier exemple, le travail de Condorcet. Alors, il est intéressant de dire qu'il relève encore de l'arithmétique politique, toujours dans la conception française théoricienne. Mais il diffère de Quesnay en ce sens qu'il adopte une méthode d'emblée mathématique. Et il diffère aussi par l'objet. L'objet est la décision collective en général et les règles de vote en particulier. Prenons le vote à la majorité relative. Le candidat qui a le plus de voix est élu parmi N candidats. Règle toute simple que la Grande-Bretagne applique, par exemple, dans son scrutin uninominal. Condorcet découvre que le vote à la majorité relative présente un inconvénient grave, le voici. Hors des cas où elle coïncide avec une majorité absolue, ce vote ne peut pas représenter correctement les préférences des électeurs. Je crois que le buste de Condorcet est malheureusement dissimulé par ses propos qui voudraient l'honorer. Condorcet se donne trois candidats, ABC, 60 électeurs, dont les préférences sont indiquées ci-dessous. Alors vous voyez, vous avez les groupes d'électeurs, ils sont quatre avec leurs effectifs. Et pour chaque groupe, vous avez des préférences qui vont par ordre descendant. Par exemple, le groupe de 23 préfère A à C et C à B. Alors, le critère de la majorité relative nous donne A comme vainqueur par 23 contre 19 et 18 à C. Et maintenant, voilà un autre mode électoral. Dans les votes effectués 2 à 2, vous constatez que A perd deux fois. Regardez maintenant les préférences. On a supposé jusqu'à présent que les électeurs votaient pour le candidat qu'ils mettaient en tête. Mais maintenant, on va regarder de près leurs préférences et regarder le nombre de fois où A l'emporte sur B, par exemple. Alors, 23 dans la première colonne et 2 dans la dernière, ça fait 25. Donc, A est battu par B par 25 voix contre 35. Faisons le même calcul sur C. Vous voyez que A l'emporte sur C uniquement dans le groupe de 23. Donc, il est battu par C par 23 contre 37. B gagne une fois contre A, on vient de voir. On constate que B perd une fois contre C. Et C eh bien, gagne deux fois. Alors, voilà qui est étonnant, parce que la méthode binaire de Condorcet débouche sur C, qui était le candidat le plus maltraité par la majorité relative. Et cette méthode, eh bien, elle a tous les titres à être considérée, parce qu'elle rend compte des préférences entières et non pas seulement des choix de tête. C'est la méthode de Condorcet qui fait couler de l'encre encore aujourd'hui. Condorcet recommande cette méthode des votes 2 à 2. Il sait très bien pour autant qu'elle ne donne pas toujours de solution. En modifiant les préférences des 60 lecteurs, il obtient un cycle, ce qu'on appelle le cycle de Condorcet. A est battu par B, qui est battu par C, qui est battu par A. Il n'y a plus de vainqueur. La solution binaire a échoué. Ceci établit une propriété très remarquable, négative malheureusement, et beaucoup plus forte que la précédente. Aucune méthode n'exprime correctement les préférences dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que la méthode que nous venons de voir est celle qui a les titres à exprimer le mieux les préférences, et elle échoue pourtant. Donc sous cette forme, la conclusion anticipe le théorème d'impossibilité d'Arrow qui lui donnera une forme encore plus mathématique et qui renouvellera la science politique et non moins la science économique. Ce que je voudrais dire en guise de commentaire est que Condorcet est déjà dans l'ordre de la mathématisation. L'exemple que je vous ai présenté est purement arithmétique, comme ceux de Quesnay, mais néanmoins il y a une analyse que j'ai dissimulée, et c'est une analyse probabiliste en fait. Il redéfinit, c'est très intéressant pour les historiens de l'arithmétique politique, il redéfinit cette discipline comme l'application du calcul aux sciences politiques, et plus précisément comme l'application du calcul des probabilités. Par la suite, il dira mathématiques sociales. Et de fait, il y a un calcul probabiliste, mais je vous en ai dispensé, c'est que Condorcet va se demander quand survient le cycle de Condorcet, utilisant l'analyse combinatoire, il va donner une probabilité d'échec de sa règle. Donc on est indiscutablement dans l'ordre de la formalisation et de la mathématisation. Alors je prétends que ce sont des exemples représentatifs. Grosso modo, ils correspondent à 4 courants généraux, ce que j'appellerais la mise en ordre des statistiques sociales. Et à ce sujet, c'est une distinction élémentaire, pardonnez-moi, mais gardons-la en tête. Distinguons la statistique comme documentation et la statistique comme science ou art de l'étude des faits avec l'aide de l'outil probabiliste. Et bien sûr, là où l'origine de la mathématique pointe anciennement, c'est avec la statistique comme documentation, c'est l'arithmétique politique de William Petty. Deuxièmement, l'analyse de la décision rationnelle, Bernoulli, et l'analyse des institutions. Alors là, j'élargis massivement, mais j'aurais aimé vous développer ce point, et il aurait fallu beaucoup plus de temps. Les institutions prises dans leur structure abstraite, n'est-ce pas, et non pas dans leur but ou dans leur fonctionnement. Donc les institutions dégagées, en fait, d'un parti pris téléologique. Je prétends que le paradoxe de Condorcet relève de ce type d'analyse. Alors audacieusement, je le rapprocherai presque, voyez-vous, de la veine structuraliste en sciences sociales aujourd'hui. Et il y a une source que je mets faute de temps et qui est très importante, ce sont les analogies physiques des sciences sociales, bien entendu. Chez les grands néoclassiques, Walras, Pareto, et pour parler d'une autre discipline, la loi de Weber-Fechner, qui est dérivée à la manière des physiciens. Voilà, alors ce sont, j'oserais dire, les grandes sources de la mathématisation, mais parlons un petit peu philosophie, après avoir parlé histoire. La thèse fondamentale que je voudrais soumettre est celle-ci. La théorie débute là où précisément débute la mathématisation. Voilà. Quesnay tâtonne vers une théorie, c'est admirable et très intéressant parce qu'il n'en est pas loin, mais il n'y est pas encore. Condorcet, en revanche, fait d'emblée un apport théorique. Ce n'est pas par hasard que la littérature d'aujourd'hui le considère comme dans la conversation, et de même pour Bernoulli. Alors, à quoi repère-t-on l'apparition d'une théorie, finalement ? Le débat d'idées se canalise autour d'un petit nombre d'idées, hein, c'est une restriction massive, mais qui va permettre le travail, Bernoulli nous permettrait de comprendre comment cette réduction s'opère. Les idées qui restent pertinentes se différencient, il y aura des idées fixes et des idées amovibles. Des idées importantes et des idées secondaires. Une hiérarchie s'est mise en place. Et Condorcet nous permettrait d'illustrer le point. Autre trait, les exemples concrets, ou bien ils deviennent des applications, ou bien on n'en parle plus, ils sont écartés. Et Léon Tieff nous permettrait d'illustrer le point. Alors, c'est une phénoménologie rustique des théories, bien sûr, pardonnez-moi, mais je voulais vous dire comment, si j'avais plus de temps et de moyens, je défendrais cette thèse, hein, qui est la thèse importante, que la théorie débute là où précisément débute la mathématisation. Parce que c'est très, en quelque sorte, concret ou phénoménologique de ce que sont les théories, eh bien, ils communiquent avec les principes du raisonnement mathématique. Vous l'aurez reconnu de vous-même. La mise à l'écart d'un certain nombre d'idées, la restriction volontaire, le traitement des exemples, la différenciation entre ce qui est fixe et ce qui est variable, et ainsi de suite. Les mathématiques n'ont pas seulement ce rôle constitutif que j'ai décrit, elles ont un rôle régulateur. Par quoi, je veux dire, elles nous permettent de réguler ou régler plus correctement les hypothèses. Cela veut dire de nous aider à former des hypothèses, c'est l'heuristique, et de nous aider à évaluer les hypothèses après coup, notamment dans ce qu'on appelle le test. Ainsi, premier rôle, le concept de système de production représenté par les matrices input-output de Léon Tieff a fait bénéficier l'économie de suggestions diverses qui sont liées à l'algèbre de ces objets. Et là, on voit un mouvement bien repéré qui consiste à se livrer dans le formalisme aux opérations sur les signes dans l'oubli complet de ce qu'il représente. Et une fois qu'on a dérivé certains résultats intéressants, on repasse à l'interprétation. Donc le pouvoir heuristique de la mathématique ici paraît considérable. Et cette source d'inspiration est très importante pour l'économie, au point que, à juste titre, à vrai dire, on dit qu'elle l'avantage trop par rapport à l'observation des faits. Le rôle de l'évaluation des hypothèses apparaît sous un angle théorique et empirique, par exemple en calculant les probabilités des configurations de préférence. La théorie du vote va permettre l'évaluation des systèmes électoraux. Est-ce que la proposition de Condorcet est bonne ou mauvaise, pour le dire crûment? Cela va se voir notamment grâce au calcul de la fréquence des cas d'échec. Et l'évaluation empirique, c'est-à-dire l'analyse mathématique du test, il est tellement évident qu'elle importe que je ne la développerai pas. Parlons d'un troisième rôle des mathématiques, rappelez-vous, constitutif, régulateur, et j'ajoute maintenant prescriptif. Alors, qu'est-ce que la prescription? Beaucoup ne l'identifieraient pas comme une zone conceptuelle séparée, je le fais sans entrer dans les détails. Partons de ceci, les significations immédiates relèvent de deux ordres dans les sciences sociales et on les désigne couramment comme l'ordre positif et l'ordre normatif, les choses sociales comme elles sont, les choses sociales comme elles devraient être. Et il y a d'autres terminologies, mais celle-ci a pris le pas au moins au XXe siècle. Alors, cette dualité sémantique, on s'attend à ce qu'elle soit évincée par le formalisme, bien entendu, mais on s'attend aussi à ce qu'elle revienne au moment où l'on réinterprète les formalismes. Et on aura cette dualité qui est tout à fait caractéristique des sciences sociales mathématisées. Le système productif satisfait à telle propriété de reproduction, simple ou élargie, ou bien il doit satisfaire, c'est l'un ou l'autre, et c'est le même objet mathématique qui pointe dans ces deux directions très différentes. Bon, j'ai prétendu ailleurs que les significations normatives étaient absolument inexpugnables en sciences sociales, ce qui m'a valu quelques querelles avec de bons collègues. Alors, la prescription, je voudrais vous proposer de l'avoir comme un entre-deux du normatif et du positif, en fait. Donc, je conçois la prescription comme une règle d'action qui est fondée sur une norme donc qui se réclame du normatif, mais qui en même temps est concrète et réellement applicable et qui a donc besoin du positif. Exemple, prenons le critère de l'utilité espérée. Vous pouvez en faire une simple norme et tenir des raisonnements divers à son propos sans préciser ce qu'est la fonction d'utilité. Mais si vous voulez prescrire, à ce moment-là, vous aurez le travail de révéler, d'identifier ce qu'est la fonction d'utilité de l'agent. Et là est la tâche précise de la prescription. Et voilà, ce sont des mathématiques distinctes. Vous me pardonnerez de ne pas développer trop, mais l'analogie qui peut nous aider, c'est que ce sont les mathématiques de l'ingénieur par rapport à celles du physicien. La prescription est généralement le fait d'un expert extérieur, non pas du sujet lui-même. L'expert va employer couramment une théorie formalisée, mais celle-là ne lui donnera pas toutes les données et il lui faudra donc faire un travail supplémentaire et d'autres mathématiques interviennent. Et, alors, nous avons là finalement un troisième rôle. Vous voyez, les mathématiques ont un rôle constitutif, régulateur et maintenant prescriptif. Voilà, alors, j'espère être presque dans les temps. Faut-il glisser justement vers une prescription au terme de ces propos beaucoup trop rapides? Eh bien, je ne sais pas s'il le faut, c'est dangereux, mais je m'abrite derrière quelqu'un de beaucoup plus considérable. Voilà ce qu'écrivait Lévi-Strauss en 1955. J'ai découvert ce texte avec une certaine stupeur, je dois vous dire. Si les sciences sociales doivent devenir véritablement des sciences, et pour parler court, si elles doivent continuer d'exister d'ici 20 ans, il est indispensable qu'une réforme soit opérée de toute urgence. On peut, dès aujourd'hui, être certain que les jeunes spécialistes de sciences sociales devront désormais posséder une solide et moderne formation mathématique, sans quoi ils seront balayés de la scène scientifique. Alors, ceci est écrit dans une introduction développée à un recueil publié par l'UNESCO en 1955 qui s'appelle « Les mathématiques et les sciences sociales ». Et le recueil contient bien entendu un développement sur les algèbres de la parenté dont Lévi-Strauss s'est occupé. C'est un point que j'aurais aimé développer. En effet, la rencontre qu'il a faite du mathématicien Weil à New York dans l'après-guerre, pendant la guerre, pardon, lui a permis d'entrevoir que des outils algébriques pouvaient l'aider à mettre en ordre ses conceptions de la parenté. Et cela a été une sorte d'éblouissement pour lui. Il a très bien compris, en fait, qu'il s'agissait d'un type de mathématiques très différente de celle qu'il avait apprise au lycée et de celle qu'on apprend d'habitude, parce que c'est ce qu'il nomme les mathématiques qualitatives. Donc Lévi-Strauss, dans son éblouissement de 1955, nous fait cette prédiction stupéfiante. Bien, on peut l'accueillir avec un sourire respectueux. Les sciences sociales ont survécu 20 ans après, en 1975, et encore aujourd'hui, en 2014, elles survivent alors qu'elles n'ont pas encore complètement appliqué la révolution demandée. Il s'en faut. Mais se portent-elles bien? Vous saurez me le dire, vous êtes les experts. Mais qui prétendrait que l'économie se porte bien? Qui dirait que la sociologie est une discipline vigoureuse et à la hauteur de ses espérances? Et à nouveau, laissons de côté l'histoire. Qui dirait les sciences sociales florissantes? La recommandation de Lévi-Strauss, évidemment, prend un relief particulier du fait qu'elle n'émane pas d'un économiste forcené de mathématiques, mais d'un néophyte ébloui.
Je donne la parole immédiatement à M. Saint-Sernin.
Merci beaucoup, M. le Président.
Je voudrais dire d'abord à Philippe Mongin combien j'ai apprécié sa conférence et je voudrais lui poser deux questions. J'ai écrit une thèse sur les mathématiques de la décision entre 65 et 70. Et à l'époque, on estimait que la théorie des jeux comportait deux parties distinctes. D'un côté, la théorie du duel et les extensions que lui a apportées Nash, et de l'autre, des théories particulières mal unifiées. Est-ce qu'aujourd'hui, la théorie des jeux est unifiée ou pas, comme c'était un petit peu le rêve de von Neumann et Morgenstern quand ils ont publié en 1944 « Theory of Games and Economic Behavior » ? La deuxième question que je voudrais vous poser est la suivante. J'ai soutenu ma thèse sous la direction d'un membre de notre académie, René Poirier, auquel a succédé Jean Ménard, et j'avais comme président de jury Raymond Aron. Et peu de temps après, je suis devenu recteur d'académie. Or, tout en estimant que le lien entre les mathématiques de la décision et les décisions que j'avais à prendre étaient réelles, j'ai mis plus de 2 ans à trouver le lien entre les modèles que j'avais étudiés et les décisions que j'avais à prendre. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'un décalage, un tel décalage, est d'observation courante? Et si oui, comment l'expliquez-vous? J'aurais pu ajouter que j'ai connu, puisque je suis maintenant un très vieux recteur, j'ai connu un exemple de mathématisation réussie. Il y a une cinquantaine d'années, le mouvement des instituteurs durait 2 mois et se faisait à la main. Et puis à un moment donné, on a décidé de modéliser ce mouvement des instituteurs. Tout le monde se demandait si ça allait marcher aussi bien dans les organisations syndicales que dans l'administration. Et finalement, on s'est lancé. C'était une époque encore un peu jacobine. Le ministre a dit « on y va ». Et ça a marché parce que les instituteurs ont constaté que les réponses favorables à leur demande de mutation avait augmenté de 15%. Et ce qui demandait 2 mois à faire, s'est fait en 2 heures. Je pourrais donner des exemples de réussite plus contestables. Je m'arrête là.
Merci. Monsieur Bachelet.
Merci, Monsieur le Président. Deux questions, enfin surtout une question très naïve, enfin je ne connais rien à ce sujet, mais vous avez dit, vous avez répété, vous avez écrit, la théorie commence avec la mathématisation. Cela veut-il dire que toute théorie en sciences sociales commence avec la mathématisation, ou bien uniquement les théories portant sur des objets écrits en langage mathématique, enfin les objets sociaux, enfin, écrits en langage mathématique. Alors si c'est la position forte qui est la vôtre, comment concevez-vous une science des religions, par exemple, enfin une théorie plus exactement des religions qui soient mathématiques? La deuxième question m'a rejoint celle que vient dénoncer mon confrère Saint-Cernin, qui est la distinction. Supposons qu'effectivement les sciences sociales ne seront des sciences que si elles sont mathématisées. Pourquoi pas ? C'est à ceux qui l'affirment à le démontrer. Ça n'est pas la même chose que d'avancer donc l'action ou les actions qui produisent des objets des sciences sociales sont elles-mêmes mathématisables. Autrement dit, on pourrait agir politiquement, mathématiquement. Ça n'est pas du tout la même chose. Alors, à la fin, dans votre conclusion, vous avez donné l'impression d'incliner plutôt en ce sens, pas en introduisant la notion non plus de prédiction, mais de prescription. Voilà. Voilà. Mais il est possible que je vous ai mal compris. Hein. Bon.
Merci. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai écouté avec plus grand intérêt cet exposé tout à fait passionnant. Je rappelle que je suis historien. Alors, évidemment, je me suis senti, à première vue, un peu exclu, mais au fond, pas tant que ça, ce sera le sens peut-être de mes questions. Staline disait en effet qu'il comprenait l'arithmétique, et donc dans ce sens était historien, mais qu'il ne comprenait pas l'algèbre. Il voulait dire qu'il comprenait les rapports de force en termes de territoire, de forces armées, etc., mais qu'il ne comprenait pas les sublimes conceptions mondiales du président Roosevelt. C'est ça qu'il voulait dire concrètement. Alors, il est vrai que, c'est le point clé, l'histoire, par définition, ne connaît pas fondamentalement des variables. Elle ne peut pas, de ce point de vue, mathématiser les données quantitatives qu'elle a. Ceci dit, l'évolution de notre discipline, qui est multiple, qui comprend également l'histoire économique, l'histoire sociale, la démographie historique, avec beaucoup d'aspects qui sont au moins quantitativistes, même si on n'est pas forcément toujours un admirateur de l'histoire quantitative, elle existe. Et il y a quand même des moments où nous sommes obligés d'introduire des variables, peut-être artificiellement, mais pour faire des hypothèses, tout simplement. Étant donné les données dont nous disposons, qu'est-ce qui a été déterminant pour tel développement? Parce que des données statistiques arrivent toujours en masse, différentes origines. Qu'est-ce qui a été vraiment déterminant? Première question. Et deuxième question, là nous avons une différence fondamentale avec les économistes, par exemple. Pour nous, l'ordre chronologique est fondamental. Or, dans le raisonnement économique, il n'est pas toujours évident. Le raisonnement économique peut souvent se retourner comme un gant, et on a du mal à distinguer finalement ce qui est la cause et ce qui est l'effet, ou du moins les deux interagissent à un tel point que l'on ne sait plus trop. Donc je me demande s'il n'y a malgré tout pas, sans faire bien entendu de l'histoire une science, disons, mathématique, c'est évidemment pas ça, s'il n'y a pas quand même quelques éléments que les historiens peuvent trouver dans l'évolution actuelle des sciences mathématiques. Et un peu dans le même sens, dans le domaine de la stratégie, nous sommes extrêmement frappés par l'utilité pour nos réflexions des réflexions de la mathématique fractale. Ça nous a apporté quelque chose. Je ne veux pas vous perdre votre temps maintenant en l'expliquant, mais je vous assure que ça nous a apporté quelque chose. Voilà deux remarques que je voulais vous faire en vous remerciant, monsieur.
Merci. Monsieur Gattaz.
Oui, je voudrais aussi féliciter M. Mongin dont l'excellente prestation nous a passionnés et plongés dans un abîme de perplexité simultanément. Alors, effectivement, ces fameuses mathématiques ont été abordées par tous ceux qui sont ingénieurs dans cette salle, et il y en a beaucoup, qui ont donc fait quelques mathématiques au départ et qui se sont plongés après dans ce domaine, non pas de l'économie, mais au moins de l'entreprise. Alors, je sais bien, on ne va pas reprendre ici le vieux éternel débat entre la macroéconomie et la microéconomie. Nous savons tous, depuis toujours, que la macroéconomie n'est pas la somme intégrale des microéconomies, mais je continue à affirmer que la macroéconomie n'existerait pas sans les microéconomies. Le champ de blé n'est pas le grain de blé, mais il n'existerait pas sans eux. Bon. Donc, je crois que la microéconomie doit s'imposer et doit se faire connaître. Alors, longtemps, on a cru que les entreprises pouvaient être faites par des artistes, et que c'était de l'art. D'ailleurs, au début du XIXe siècle, une école s'était appelée l'école des ingénieurs des arts et manufactures, pour bien montrer qu'ils étaient à la fois artistes et manufacturiers, ce qui est, comme vous le savez, difficile à obtenir un compromis. Alors, cette théorie des jeux qui a passionné tout le monde, moi, je ne connais pas un étudiant en mathématiques qui ne soit pas passionné pour la théorie des jeux. J'en ai encore jamais rencontré. Et dans d'autres sections de l'Académie, on en parle de temps en temps, puisque nous avons tous été un petit peu, à un moment donné, passionnés par ça, en particulier Maurice Allais. Nous avions des grandes théories à l'époque sur ça, sur les théories des jeux qui l'avaient passionné pendant des années. Alors, l'entreprise est bien loin de tout ça. Mais, vous l'avez dit vous-même, la mathématique de l'entreprise est une mathématique d'une simplicité biblique. C'est la comptabilité de la ménagère. Comptabilité de la ménagère qui est encore inconnue des élèves de troisième. Alors, c'est quelque chose. Leur expliquer ce que c'est que le produit, les dépenses, le résultat positif ou négatif, leur paraît très complexe, alors que la ménagère l'a compris tout de suite. Alors, dans les entreprises, elles se sont, comme vous le dites vous-même, M. Brongin, elles se sont mathématisées, qu'on le veuille ou non. Moi, quand j'étais jeune ingénieur, c'était les temps élémentaires, qui paraissaient déjà un peu compliqués. Les Japonais ont inventé le Kanban, c'était un peu plus compliqué. Les Américains, le Six Sigma, plus compliqué. Et aujourd'hui, on est dans le Lean Manufacturing, qui est à la fois simple et complexe. Et quant au numérique, cette fameuse génération Y, dont on nous avait dit qu'elle repousserait les mathématiques, rappelez-vous, on nous a dit cette génération, elle est foutue, elle n'a rien compris, elle ne fera jamais de mathématiques, elle ne veut pas de mathématiques. Aucune génération ne s'est aussi bien adaptée aux mathématiques du numérique que la génération Y, qui a avalé la mathématique de façon absolument historique. Et ça marche remarquablement bien. Voilà. Alors, moi, je ne voudrais pas en terminer sur une note trop pessimiste, mais je crois que la chance de l'ingénieur dont je vous ai parlé, elle ira obligatoirement vers la mathématisation, qui ne sera pas forcément très poussée, ça ne sera pas de la haute mathématique, mais l'industrie en particulier, dont on parle tant en ce moment dans les journaux, tristement d'ailleurs, est quand même basée sur des problèmes scientifiques qu'on ne peut pas négliger. Et quand on dit scientifique, on dit mathématique. La mathématique était quand même la base de la science. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Ménard.
Oui, j'ai été d'autant plus passionné par cet exposé que je suis convaincu que l'un des grands problèmes qui se pose à l'intelligence d'aujourd'hui, c'est celui du rapport des mathématiques avec les savoirs en général. Et nous en avons eu d'excellents exemples. Mais je me demande si nous ne sommes pas au début de cet effort qui peut aller très loin. En fait, ce que nous avons analysé ou étudié cet après-midi, ce sont des exemples arithmétiques. Et c'est essentiellement l'arithmétique qui a été exploitée pour l'utilisation des mathématiques en matière de sciences économiques et sociales. Mais je crois que la géométrie ne serait pas moins utile et que la géométrie permettrait d'aller ailleurs. À la géométrie peut se rattacher notamment une notion qui est fondamentale aujourd'hui, qui est celle de modèle. Modèle, c'est quelque chose de géométrique. Je crois que le privilège des mathématiques, de l'arithmétique, vient de ce que la pensée à la mode, la pensée vivante, est essentiellement analytique aujourd'hui. Elle n'est pas synthétique. Or, la synthèse suppose des figures, suppose des projets, suppose des images. Elle suppose notamment l'avenir, et l'avenir n'est pas du tout étranger aux sciences économiques. Les mathématiques, quand on analyse l'arithmétique, quand on analyse un vote, par exemple, on parle du passé, on ne parle pas de l'avenir. Et on ne justifie pas du tout les votes. Il n'y a aucune raison de croire que tel vote soit meilleur que tel autre. C'est pourquoi j'ai l'impression que nous sommes au début d'une immense réflexion qu'il faudra largement poursuivre.
Merci. Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons eu le privilège d'un exposé extraordinairement limpide et fascinant. J'ai un commentaire et trois questions. Commentaire, chaque fois que je discute avec des amis américains ou anglais, la référence est évidemment le théorème d'Arrow, quand moi, spontanément, je parle du paradoxe de Condorcet. Et alors, évidemment, nous parlons de la même chose. J'ai trouvé extrêmement intéressant le passage de votre exposé. Mais je reste frappé par le fait que la formation que nous avons demeure, disons, historiquement marquée par rapport à ce qui est considéré comme la formation économique normale, en tout cas chez les anglo-saxons, ça me frappe beaucoup. Alors, il est vrai que Harrow et d'autres ont très bien développé, évidemment, la percée conceptuelle de Condorcet. Ça, c'est le commentaire. Une question. Pour moi, et je voudrais avoir votre réponse sur cette remarque, les mathématiques, c'est un langage symbolique, d'ailleurs multidimensionnel, d'une très grande complexité. On n'a pas parlé du calcul différentiel et intégral, mais on ne s'en tient pas du tout à l'arithmétique, hein, s'agissant des mathématiques économiques. Et on va beaucoup plus loin. Et en ce moment, je vois des travaux incroyablement raffinés qui tirent parti des mathématiques les plus avancées. Donc nous ne sommes pas du tout bloqués sur de l'arithmétique relativement simple, me semble-t-il. Mais le grand avantage, c'est qu'on a un langage qui est d'une rigueur absolue, et que lorsqu'on veut pénétrer des systèmes très très complexes, le langage non mathématique ne convient absolument pas. Ce qui ne veut pas dire que mathématiser donne le privilège de la science ou de la théorie juste. On peut se tromper monumentalement tout en ayant un langage qui permet de prendre en compte une réalité extrêmement complexe. Et je voudrais là avoir également votre commentaire sur ce que nous avons pu observer dans les périodes les plus récentes, je dirais, si je puis me permettre, Jacques de La Rosière, moi-même et tous nos collègues, à savoir des événements de crise absolument non prédits par aucun des modèles mathématiques perfectionnés que nous avions, donc mettant en cause, non pas du tout la qualité de la mathématique sous-jacente, mais mettant certainement en cause l'ensemble des paramètres que nous y avions mis et l'ensemble des phénomènes que nous pensions voir être représentés. Et je dois dire que, de plus en plus, il me semble que nous sommes les uns et les autres absolument convaincus que la méthode simple consistant à regarder le passé, à en tirer des paramètres et à avoir, avec des modèles mathématiques simples ou compliqués, une bonne perception de l'avenir et du futur, tout cela est complètement remis en cause. Et ce que je vois, c'est beaucoup plus l'idée, on a absolument besoin d'avoir une approche multidimensionnelle. Ce qui compte, c'est la robustesse des résultats. Si tous les modèles très différents que nous utilisons suggèrent des résultats voisins, alors il y a là quelque chose de robuste. Et puis, dernière question, comment pourriez-vous commenter le point de savoir si on a toujours un bon critère de scientificité avec la remarque de Karl Popper, selon lequel une bonne théorie doit présenter elle-même des éléments qui permettraient de la réfuter par l'expérience ou par l'observation. C'est comme ça, d'ailleurs, me semble-t-il, qu'il avait conclu que le marxisme et le matérialisme historique n'étaient pas une science, puisqu'il n'y avait pas d'expérience qui permettait de démontrer qu'il était erroné. Et là, on est dans le domaine des religions, qui ne sont pas du domaine de la science, puisqu'elles ne donnent pas d'éléments d'expérience qui permettraient, le cas échéant, de les réfuter. En tout cas, c'est le sentiment exprimé par Karl Popper, avec lequel tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. C'est pas une preuve. Pardon. Merci.
Merci. Monsieur de La Rosière.
Merci beaucoup. J'avais une première question qui était la deuxième question de Monsieur Trichet, alors je passe. J'en ai deux autres. Premièrement, Keynes a révolutionné la théorie économique moderne. Était-il, selon vous, un mathématicien? A-t-il mathématisé sa théorie? La deuxième question, c'est qu'il est de fait que les progrès de la mathématisation, notamment dans le domaine économique, ne vont pas de pair avec les progrès de la politique économique. Que vous inspire ce paradoxe?
Merci.
Monsieur Levina.
Merci, Monsieur le Président. Je vais vous poser une question très provocatrice. Monsieur, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je suis historien. Je ne connais pas grand-chose aux mathématiques. Un petit peu l'arithmétique, quand même, parce que c'est compté. Et au fond, en vous écoutant, et vous allez me répondre, j'espère, en fin de partie, comme on dit chez Beckett, je me suis dit que vous devez expliquer le conclave de 2005. Il y avait trois groupes. Un groupe A, un groupe B, un groupe C. Nous sommes d'accord. Nous sommes dans quelque chose qui se rapproche du syndrome de Condorcet, qui, vous savez, a fait l'objet d'une analyse très savante de la part de nos collègues Serge Bernstein et sa compagnie sur les élections perdues par les Républicains de 1885, pour ce fameux triangulaire très difficile de façon arithmétique. Donc, en 2005, il y avait trois groupes. Il y avait le groupe A, Ratzinger, le groupe B, Bergoglio, le groupe C, Ruini. Et finalement, comme vous savez sans doute, l'intervention définitive du cardinal Martini a fait que le groupe A, Ratzinger, a été le vainqueur devant le groupe B et le groupe C. Et la question est la suivante, j'y viens quand même, c'est pas pour vous étaler mon petit savoir sur ces questions qui sont d'un intérêt moyen. Que faites-vous, ou quelle part donnez-vous à la psychologie, à l'humain, à la décision, à l'influence, dans ces projections subtiles et qui vont passionner, que vous proposez? Comment est-ce que quelqu'un peut brusquement faire basculer un vote qui était destiné, selon une procédure de majorité relative qui, vous savez, était prévue par le code défini par Jean-Paul II en 1994, fait définir, finalement, une majorité très étroite, finalement, car on oublie que le pape Benoît XVI est élu à trois voix seulement de la majorité absolue, et vous avez beaucoup parlé très bien de la majorité absolue, de la majorité relative, qu'est-ce qui fait que ça bascule? Donc, quelle est, ma question est très simple, la part pour vous de l'humain dans le modèle mathématique? Merci beaucoup.
Merci. Je voudrais. Pas d'autres questions?
Si, M. Guillaume.
Ah, M. Guillaume.
Oui, M. le Président, j'étais également très intéressé. Je voudrais poser une question qui n'a pas été évoquée, qui est le rapport de la mathématique et du droit. En particulier du droit de la responsabilité. Un homme, pour prendre une question simple, doit-il être déclaré responsable des conséquences d'un acte qui a causé des dommages, mais qui avait très peu de chances au regard du calcul des probabilités d'en causer? Faut-il faire intervenir, en d'autres termes, le calcul des probabilités dans le droit de la responsabilité?
J'ajouterais deux questions plates. Vous identifiez la théorie à la mathématisation. On l'a fait dans des perspectives très diverses. Kant, par exemple, définissait ainsi la théorie comme ce qui pouvait, dont l'objet pouvait être constructif mathématiquement. Quel est le statut pour vous d'une théorie non mathématisable? Qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, vous avez parlé du retour d'une dualité importante dans le champ de la mathématisation, la dualité des choses sociales comme elles sont et des choses sociales comme elles devraient être. S'il s'agit des choses sociales comme elles devraient être, on est dans un programme social, mais reste-t-on encore dans le domaine de la science? Et s'agit-il au contraire, à vos yeux, du fait qu'il y a dans les acteurs sociaux, économiques, l'existence
de déterminations qui sont des déterminations axiologiques ou normatives. J'entends par là le fait qu'il y a des raisons pratiques qui interviennent dans le comportement des hommes. Je voulais savoir ce que vous entendiez par ces choses sociales comme elles devraient être et si, dans ce domaine particulier, la mathématisation était plus poussée, pouvait être plus poussée que dans le domaine des choses sociales comme elles sont. Pas d'autres questions ? Eh bien, Monsieur Mongin, c'est à vous, non pas pour une deuxième conférence, mais pour une réponse synthétisante à toutes les questions qui vous ont été posées, aux remarques qui ont été faites. Vous avez donc la parole pour au maximum une demi-heure.
Merci, Monsieur le Président. C'est un vaste programme, comme disait quelqu'un de plus considérable que moi. Je vais essayer de répondre en partie séquentiellement. Et tout d'abord à M. le recteur Saint-Cernin. Il m'a interrogé, c'est une question de spécialiste, sur le degré d'unification de la théorie des jeux aujourd'hui. Sans être le spécialiste poussé que je devrais être de la théorie des jeux, je pense pouvoir vous répondre, M. le recteur, que la théorie des jeux non coopératifs, c'est que va unifier grâce à ce concept d'équilibre de Nash qui a été, dans les premières années, en quelque sorte en concurrence avec le concept d'équilibre à point sel de von Neumann-Morgenstern. Et c'est Nash qui a gagné, en fait, contre les fondateurs. Par ailleurs, la théorie des jeux coopératifs continue de vivre sa vie et c'est un programme qui est régulièrement repris aujourd'hui que d'essayer de jeter des ponts entre les deux. Et par certains côtés, on retrouve, mais c'est analogique, le problème de liaison du positif et du normatif que d'autres ont évoqué. Vous avez posé la question embarrassante de l'efficacité pratique des sciences sociales en rappelant un très bon exemple, le mouvement des instituteurs. Enfin, j'ai repensé un de vos travaux originaux, là, le décideur. Il posait la question de manière très vive de ce qui est applicable ou pas de cette belle théorie de la décision. Je répondrai sur votre terrain même. Le dénommé Roth, qui vient de bénéficier du prix de la Banque de Suède, ce qu'on appelle improprement le prix Nobel, a fait des travaux qui sont à la fois fins théoriquement et très utiles pour faciliter la mise en relation des parents d'élèves et des écoles. Dans le système américain, on bénéficie d'un large choix et où la segmentation géographique ne s'impose pas absolument. L'offre et la demande sont largement dissociées et cela pose des problèmes que l'analyse à la fois conceptuelle et combinatoire de Roth a aidé à résoudre. Et le système qu'il a proposé a été adopté par le district de Boston. Donc voilà un exemple qui n'est pas sans évoquer le vôtre et qui montre que dans certains secteurs, on peut arriver à des applications. Sont-elles réussies ou pas ? En tout cas, elles sont acceptées et mises en pratique. Répondre peut-être à M. Bechler en même temps qu'à M. Bourgeois, puisque les questions consonnaient, en fait. Alors, je vais d'abord biaiser dans ma réponse en disant que j'ai triché dans ce que j'ai écrit. J'ai dit la théorie débute là où débute la mathématisation, et j'ai abusé évidemment de l'indicatif parce que je voulais dire que ce commentaire s'appliquait assez adéquatement à mes exemples, mais bien sûr il y avait une connotation normative au-delà de la connotation positive ou prescriptive, donc c'était un usage un petit peu malhonnête de l'indicatif, de même que l'on dit tout condamné à mort aura la tête tranchée. À vrai dire, je ne voulais pas m'engager aussi profondément que ce que M. Bechler et M. Bourgeois ont pensé, mais je voulais aussi provoquer évidemment vos réflexions là-dessus. Alors, si vous me poussez dans mes retranchements, je dirais que je ferai la distinction d'une théorie et d'une théorie scientifique. D'ailleurs, M. Bechler, vous avez dit la science des religions ou la théorie des religions, et il y a peut-être quelque chose à prendre de votre hésitation. Il est bon sans doute de distinguer une théorie prise généralement et une théorie scientifique ou à vocation scientifique. Il y a une littérature épistémologique assez abondante sur ce que sont les théorie scientifique, et dans le cadre limité de cette littérature épistémologique, je prends la position, oui, que la théorie scientifique commence avec la mathématisation. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait une théorie psychanalytique, par exemple. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a un statut théorique, et elle obéit d'ailleurs à cette phénoménologie élémentaire des théories que je vous ai présentées, la restriction de champ, le traitement des exemples, etc. La systématicité. J'ai simplement voulu donner à penser qu'il y avait une communication entre ces traits généraux des théories et un certain trait du raisonnement mathématique. Lorsque on rejoint les deux sont destinés, ils ne sont pas nécessairement destinés à se marier, mais ils peuvent se marier très aisément. Lorsqu'on a la conjonction des deux, on a peut-être une des conditions nécessaires pour ce qu'est une théorie scientifique. Alors, ceux qui m'attaqueraient à ce moment-là, ce n'est pas tant vous qui avez en tête des théories sociologiques, par exemple. Ce sont peut-être certains scientifiques, et en particulier des biologistes, qui supporteraient mal que leur discipline, qui est souvent non mathématisée ou mathématisée très pauvrement, presque à la manière de Quesnay, soit exclue du champ des théories scientifiques. Là, peut-être, c'est un débat qu'il faudrait avoir avec les spécialistes. Je crois que M. Bourgeois et Bechler étaient aussi d'accord pour s'interroger sur des proclamations un peu excessives, peut-être, sur ce que c'est qu'agir mathématiquement. Alors, quand j'ai introduit la prescription comme dimension supplémentaire du rôle des mathématiques, à côté du rôle constitutif et du rôle régulatif, je ne voulais pas dire nécessairement qu'il y ait beaucoup d'exemples de ce genre, ni qu'ils soient payés de succès. Je voulais ouvrir une possibilité. J'aurais dû l'étayer par des exemples, mais la conférence, même les plus mauvaises conférences, doivent avoir une fin, donc je ne l'ai pas fait. Monsieur Saint-Cernin m'a fourni un très bel exemple, en fait, de ce que peut être un usage prescriptif des mathématiques, et je voulais souligner la spécificité par rapport aux mathématiques plus théoriques, et je rejoins là d'ailleurs des choses signalées par Monsieur le Président Gattaz, qui sait bien d'expérience, je pense, que lorsque l'ingénieur travaille, il utilise parfois des règles de trois, simplement. Il utilise une mathématique qui n'est pas nécessairement très compliquée, mais aussi il utilise une mathématique qui est spécifique et qui aujourd'hui dépend de plus en plus de l'informatique, du calcul numérique. Donc c'est un certain genre de mathématiques que je voulais isoler du reste. Les historiens, je les en remercie, ne m'ont pas si vivement attaqué. Et à la vérité, je n'ai pas osé traiter d'histoire aussi. Je suis certainement assez réservé à la vérité sur l'usage des mathématiques en histoire, si on accepte les mathématiques qui sont destinées au traitement des données, mais pas au point quand même d'exclure qu'il puisse y avoir des modèles en histoire, et cela a été dit par monsieur qui a trouvé utile et peut-être nécessaire l'introduction de variables, et non seulement de nombres, de variables là des nombres, pour faire des hypothèses. Et il a rejoint là des idées qui me sont chères sur la théorie, ou un certain genre de théorie qui débute avec l'algèbre. Et bon, j'ai commis un article effroyable sur la bataille de Waterloo, où je prétends expliquer une petite partie mal comprise des historiens par un modèle de théorie des jeux. Enfin, je suis à la fois honteux et fier de ce petit travail. Et donc, je suis ravi, Monsieur Soutou, que vous ne condamniez pas à ce genre de tentatives. Elles sont probablement destinées à être occasionnelles, et elles posent un problème aussi que les épistémologues ont traité ainsi. Au fond, lorsque l'historien se livre à un modèle et à la formulation d'hypothèses théoriques, en un sens déterminé du mot, est-ce qu'il reste historien ou est-ce qu'il devient spécialiste de sciences sociales ? Popper, par exemple, qui a été cité sous un autre angle, de reprise, Popper avait cette idée que l'histoire est à part, parce que, ou plus exactement, l'histoire est une activité mixte, à l'intérieur de laquelle ce sont les sciences sociales, c'est son point de vue, qui apportent les hypothèses théoriques. L'historien va les chercher, un rôle actif, il va surtout les évaluer, un rôle actif encore, mais il y a une sorte de division fonctionnelle de l'historien. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en penseriez, et il me semble que l'école des annales, une partie d'entre elles, pourrait se retrouver dans cette idée. Sur l'histoire, il me semble que je dois ajouter quelque chose à propos du bel exemple de M. Le Villain. Alors, c'est peut-être une illustration de la thèse que j'essaie d'avancer lourdement. C'est dans l'exemple de l'élection au conclave. Bien entendu, l'historien, s'il fait son travail, sera obligé de dire comment l'affaire s'est tranchée. Mais n'y avait-il pas une étape à isoler qui serait implicitement accomplie par la science sociale ou l'historien en tant que pratiquant la science sociale, qui consistait à décrire structurellement le vote? Et on était peut-être dans une de ces situations de blocage qui ne sont pas loin du paradoxe de Condorcet. Et les institutions produisent des effets de structure. Je crois qu'on en est tous convaincus, non seulement par Lévi-Strauss, mais déjà par Condorcet. Hein. Il n'est pas mauvais de voir, finalement, comment ces effets peuvent déterminer la liberté des individus. Alors, évidemment, dans le paradoxe de Condorcet, déjà, hein, A battu par B, qui est battu par C, qui est battu par A, on sent que voilà, la place est libre à la manipulation, à l'influence, mais il n'est pas mauvais d'identifier d'abord là où la structure a causé son effet, et c'est la science sociale qui, au passage, peut-être de manière élémentaire, a dégagé l'effet de structure. Est-ce que j'en viens à une question de M. Ménard, peut-être, sur la géométrie? Les exemples étaient arithmétiques aujourd'hui pour ne pas vous accabler avec des équations algébriques. Mais la thèse est bien que la mathématisation commence lorsqu'on remplace les nombres par l'algèbre. Et cela inclut la géométrie. La géométrie est une discipline algébrique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les intuitions géométriques et les représentations géométriques qui appuient la géométrie sous sa forme mathématiquement reçue aujourd'hui ne sont pas importantes. Les diagrammes sont fondamentaux, les histogrammes sont fondamentaux, Il y a de très bons exemples, effectivement, de l'utilisation des modèles géométriques pour appuyer des idées qui, souvent, sont complètement opaques. Ça arrive en théorie du vote, par exemple, discipline combinatoire obscure, mais on peut donner des représentations qui sont non seulement sous forme de tableaux, mais aussi d'objets multidimensionnels. Et là, la géométrie joue magnifiquement son rôle. Monsieur Gattaz a implicitement réclamé des développements qui manquaient dans cette toute petite présentation, ce qui concerne l'entreprise, qui relève moins dans les visions d'aujourd'hui de ce qu'on appelle microéconomique, au fond, de ce qui s'est autonomisé sous le nom de science du management ou science de la gestion. Dans l'école où j'enseigne, le gros des cours porte là-dessus. Vous avez raison, Monsieur le Président, de souligner la présence des mathématiques à tous les niveaux dans ces disciplines. Alors, on part de la comptabilité qui est en quelque sorte la porte, comme chez Keynes, de ce qui suit. Mais il y a des développements qui auraient pu être illustrés par des exemples frappants concernant la recherche opérationnelle. Nous avons un cours à l'école HEC qui s'appelle le traitement de la chaîne productive, par exemple, qui est un niveau élémentaire fondé sur la recherche opérationnelle. Il s'agit, par exemple, d'optimiser les flux tendus d'une grande entreprise ou de calculer au mieux les déplacements entre les différents sites productifs. Ou bien d'essayer d'optimiser la quantité de stock en fonction de certaines variables représentatives d'incertitude. Et là, ce sont les mathématiques de la recherche opérationnelle qui sont potentiellement prescriptives, mais développées quand même à un assez haut niveau théorique, qui servent. Alors, malheureusement, ce n'est pas mon domaine, mais il y a de toutes petites applications en théorie de la décision. Je les mentionne quand même, puisque c'est mon secteur. La Compagnie française des pétroles, comme on l'appelait à l'époque, à un moment, a utilisé le bon vieux critère de Bernoulli pour s'aider à décider de la prospection ou non d'un champ pétrolier. Et j'ai entendu dans mon jeune temps de très bons exposés qui étaient faits par un ingénieur des mines qui était gagné à cette méthode. Et alors il insistait beaucoup sur le fait que c'était simplement de l'aide à la décision. Et en fait, on n'est pas assez sûr de ces constructions bernouliennes pour les avancer quand même très brutalement. Donc on les intègre à des systèmes de plus en plus informatiques désormais, ce qu'on appelle les logiciels d'aide à la décision, et qui visent en quelque sorte à fonctionner en parallèle avec la délibération naturelle de l'agent. Et il en vient à comparer la conclusion du logiciel et la sienne propre, et il peut s'enclencher une sorte de dialectique qui l'amènera à réviser sa décision, et celle-là aura le dernier mot, en fait. Alors, les logiciels d'aide à la décision servent sur le plan médical de plus en plus souvent, pour le meilleur ou pour le pire, et je pense que nous serons de plus en plus soignés par des médecins qui simultanément regarde ce que le logiciel leur dit et bien sûr en tiennent compte ou n'en tiennent pas compte. Et c'est plutôt le type d'application auquel je pense. Vous voyez qu'elles sont menées assez raisonnablement. Je suis sorti du cadre de l'entreprise, mais on n'est pas si loin, finalement. Il y avait une question redoutable sur le droit de la responsabilité. Et alors, Condorcet, bien sûr, vous le savez, Monsieur Guillaume, Condorcet a introduit sa mathématique sociale par des exemples, notamment de tribunal. Donc il y a ce fameux théorème de Condorcet, qui aujourd'hui est redécouvert et qui fait chiffrer les mathématiciens, qui est fascinant, mais il a aussi des exemples concrets de jugement. Alors, le révérend Bayes, qui est un autre fondateur de la théorie des probabilités, a aussi des exemples de tribunaux, et ses sources sciences sociales du calcul des probabilités semble pratiquement avoir précédé les sources scientifiques. C'est très intéressant. Les tables de mortalité, les exemples de tribunaux, ça vient peut-être avant le traitement que les physiciens, les ingénieurs vont faire de la probabilité. Vous me pressez durement, monsieur, en me demandant d'évaluer ce type de travaux. Je les trouve suggestifs. Et ils ont l'intérêt quand même d'éviter peut-être certaines erreurs. Alors là, je vais faire référence à un courant qui est celui des conceptions qu'on appelle comportementales de la décision, Kahneman et Tversky notamment. Ils ont mis en évidence le fait que nous, pauvres humains, nous tombons dans tous les pièges possibles du calcul des probabilités le plus élémentaire. On demande à de grands médecins de donner un témoignage sur la question de savoir si l'arsenic contenu dans le corps de la victime appelle plutôt l'hypothèse d'un empoisonnement ou une autre hypothèse. Ils s'embrouillent piteusement, bien que ce soit un bac plus 25. Le calcul des probabilités, si on l'applique dans ces cas, ou si le juge veut bien en faire usage, a l'avantage de purger certaines erreurs, en tout cas. Un avocat ferré là-dedans pourrait démonter des arguments d'expertise qui sont en fait mal fondés. Donc là aussi, il y a un usage qui ressemble à l'aide à la décision, du juge en l'occurrence. Et alors, je réservais de grandes questions de philosophie des sciences posées par messieurs Trichet et Delarosière. Commençons par ce qui est facile, c'est-à-dire le paradoxe de Condorcet, le théorème d'Arrow. Alors, c'est une petite histoire amusante. Quand Arrow publie sa première édition en 1951, il a bien sûr en tête le paradoxe ternaire très simple, et il l'attribue à un certain Nanson qui était juge en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle. Arrow est un homme très cultivé et par ailleurs bon lecteur du français, mais il est aussi très jeune à l'époque. Alors, des gens bien intentionnés lui signalent, vous savez, il y a eu un certain Condorcet. Et ce sont notamment des Français. Arrow vient à un grand colloque en France sur la décision au début des années 50. Il rencontre Monsieur Guilbeault, qui est en fait le redécouvreur de Condorcet. Parce que Condorcet semble avoir été oublié, en fait, pendant longtemps. Ses écrits mathématiques étaient ignorés, et non sans raison, parce qu'ils sont d'une obscurité épouvantable. Et dans la seconde édition de 1962, Arrow, lecteur soigneux, reconnaît évidemment la primauté de Condorcet, il le commente utilement, il rend hommage à Guilbeault et aussi à Granger, qui a écrit un joli livre sur la mathématique sociale de Condorcet. Bon, ça, c'était la question facile. Alors, m'engager, Monsieur le Président, dans des questions redoutables sur les systèmes complexes. Et j'avoue que par limitation intellectuelle, probablement, je m'intéresse plutôt à des systèmes simplifiés ou épurés. Un système de vote peut passer pour tel. La complexité d'une économie entière telle qu'elle peut être appliquée par un grand modèle macroéconomique, à la direction de la prévision qui était la vôtre, ou au Fonds monétaire international, ou Banque centrale européenne, cela, à mon avis, dépasse, je crois, mes moyens de commentaire. Mon sentiment est que ce qu'il faudrait creuser à ce point, je ne suis pas capable de le faire, c'est le rôle de l'analyse numérique, cette forme particulière de mathématiques qu'est l'analyse numérique. Les grands modèles sont en général inspirés par des petits modèles, cela au moins je le sais. Ce sont les petits modèles monétaristes qui ont inspiré les grands modèles de la propagation des effets monétaires des banques centrales. Donc il y a un continuum fort intéressant à étudier entre des petits modèles qui sont des joujoux intellectuels et parfaitement maîtrisables par la mathématique ordinaire, et des modèles de plus en plus grands qui tiennent compte d'un nombre d'interactions de plus en plus grand. Et on se retrouve avec des équations qui peuvent rester très simples, linéaires par exemple, quadratiques seulement, mais en très grand nombre. La nature de ce processus, je ne saurais pas la décrire exactement, mais ce qui m'apparaît, c'est qu'à un certain moment, les grandes difficultés vont être celles de faire cracher des données à ces grands modèles et de savoir les évaluer. Alors, est-ce que telle série de données qui vous sort correspond à une situation d'équilibre ou à une situation temporaire ou ce genre de choses? Et là, ça demanderait une analyse spécifique. Et c'est vrai que c'est un courant qui n'entre pas très bien dans ma taxinomie des sources de la mathématisation. Le critère de réfutabilité, il est bien commode. Il est simpliste, critiquable, mais il est bien commode quand on veut essayer de dire ce qu'est le continent du scientifique. Dans mon cas, il me faut quelque chose, puisque j'ai essayé de distinguer les théories comme genre, des théories scientifiques comme espèce. J'aurais pu dire aussi, j'ai implicitement distingué entre la science en un sens large, éventuellement la Wissenschaft de beaucoup d'Allemands au XIXe siècle, et la science dans le sens plus restreint qui s'est imposé à l'attention par la suite. Il nous faut un critère. Alors pourquoi pas la réfutabilité? C'est juste le point de départ. On a beaucoup reproché à Popper d'être à la fois trop strict et trop large, finalement. Trop large parce qu'il y a des théories réfutables qui sont vraiment très peu intéressantes et qu'on doit écarter intuitivement de la science. Et là, la faiblesse de Popper est de n'avoir pas voulu tenir compte des résultats acquis, puisque la réfutabilité, c'est une potentialité, simplement. Son élève Lakatos l'a contesté en disant il faut qu'il y ait déjà quelques résultats. Donc c'est la réfutabilité plus quelque chose. Ce plus quelque chose est assez délicat à définir, mais cela a à voir avec ce qu'on appelle la confirmation, non pas en sciences des religions, mais en philosophie des sciences. Et les outils probabilistes peuvent nous aider, la règle de Bayes jouant son rôle à ce moment-là. Un surcroît, même léger, de confirmation semble devoir compléter la réfutabilité. Donc le critère était trop large et on peut le restreindre de cette manière. Et il est trop strict aussi parce que certains développements intellectuels semblent amorcer la science, au moins rétrospectivement, et commencent par des expériences de pensée, par exemple. Il y a des pans entiers de la physique qui se sont développés à partir d'expériences de pensée. Einstein et bien d'autres ne les méprisaient pas du tout. Quel statut donnent les expériences de pensée? Ce sont des expériences, elles ont des petites allures de test, mais elles se déroulent mentalement et elles sont éventuellement contestables pour leur non-reproductibilité. C'est le palier vers certains développements scientifiques. Donc le critère est aussi trop strict tout en étant trop large. Mais c'est un bon point de départ. Je crois que le philosophe des sciences Hawking disait « Je ne connais pas de philosophie des sciences aujourd'hui qui n'inclut pas au moins un aspect de ce critère comme toute première approximation. » Et c'est la position que je prendrai sur ce critère. Ai-je répondu à tout ? Non, il y avait une question sur Keynes de M. de La Rosière. Alors, voilà un exemple dont je vous remercie particulièrement parce qu'il me fait penser à l'exemple de Keynes. Keynes est un révolutionnaire en théorie économique. Quoique mathématicien à Cambridge, il est pris d'un dégoût croissant des mathématiques et il écrit contre les mathématiques dans son âge mûr. Quand il a des idées importantes sur l'équilibre de chômage, l'équilibre de sous-emploi, peut-être parce qu'il n'a plus le temps, il a 50 ans passé, peut-être parce qu'il ne sait plus le faire, il ne mathématise pas, il y a un unique diagramme dans la théorie générale, ça fait jaser. Un de mes professeurs, en fait, j'ai passé un petit peu à Cambridge, c'est le professeur Hahn, disait Keynes, c'est Lucrèce, en fait. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est grâce à lui. Donc, c'est le début de la théorie, mais ce sont ces phases de transition où Keynes se trouve à peu près. Il précède la théorie keynésienne telle qu'elle peut prendre forme mathématiquement. On ne minimisera évidemment pas son importance parce que ce sont d'autres qui l'ont fait. Donc voilà la manière dont j'essaierai de le placer par rapport aux réflexions de cet exposé.